quel sentiment tu ressens?
J'aimerais faire une introspection, quoi.
Trouve-moi un dictionnaire, regarde l'introspection. S'il nous envoie ça à travers la gueule, je veux savoir ce que c'est.
Bonsoir à tous et à toutes, chers auditeurs de l'Oreille Curieuse sur Radio G. C'est en effet l'heure d'un nouveau prêt-à-penser, la chronique psy en toute simplicité. Et ce soir, je vais répondre à la sollicitation de Frédéric, que je remercie au passage, qui m'a contacté sur la messagerie privée de ma page Facebook et m'a invité à réagir en tant que psychologue, bien sûr, sur l'arrestation des 4 enfants à Albertville au début de ce mois de novembre. Alors rappelons les faits. Suite à l'effroyable assassinat dont tout le monde a entendu parler de Samuel Paty par un terroriste, Samuel Paty, cet enseignant qui avait montré les caricatures de Mahomet à ses élèves, eh bien la rentrée qui a suivi les vacances de la Toussaint a débuté dans toutes les écoles de France par un temps d'hommage et de discussion dans la classe à propos de ce fait divers et de la liberté d'expression. Dans une école d'Albertville, 4 enfants de CM2 âgés de 10 ans auraient tenu des propos problématiques jugés suffisamment inquiétants par l'enseignant pour que celui-ci en informe son directeur, lequel en a informé le recteur d'académie. Quelques jours plus tard, le professeur trouve dans sa boîte aux lettres un mot sur lequel est écrit « T'es mort » avec le T en lettres capitales. Il décide de porter plainte après en avoir informé sa hiérarchie, dont l'académie, qui fait parvenir au parquet le cas des propos initiaux des 4 enfants de 10 ans. En conséquence, une intervention policière est alors diligentée et les enfants sont arrêtés à leur domicile tôt le matin par des brigades d'intervention cagoulées et armées et les domiciles sont perquisitionnés. Les enfants resteront plus de 10 heures en rétention, seront interrogés avant que tous les soupçons de radicalisation des familles soient écartés et que les enfants et leurs familles soient aussi mis hors de cause concernant le mot dans la boîte aux lettres de l'enseignant. Alors bien évidemment, cette histoire n'est pas sans poser de multiples questions. Mais pour ce prêt-à-penser, j'en choisirai 2, qui me semblent concerner ma qualité de psychologue d'une part, mais aussi avoir été, je pense, à l'origine du contact par Frédéric. La première question, bien sûr, c'est s'il est avéré que les enfants n'évoluent pas dans un environnement radicalisé, on le sait depuis l'enquête, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pu tenir les propos ayant choqué leur enseignant lors de ce temps d'échange en classe ? De ces propos, on ne sait pas grand-chose. Il faut dire que, d'ailleurs, assez étonnamment, peu sont les journalistes qui ont fait un réel travail d'investigation sur cet événement. Cependant, on trouve ici et là des propos rapportés par la famille franco-turque d'une fillette faisant partie de ses 4 enfants. Selon elle, les enfants auraient dit à l'enseignant qu'il était interdit de caricaturer le prophète et que Samuel Paty avait eu tort de montrer les caricatures. Il est également précisé qu'à la question de l'enseignant « Est-ce que moi je vais me faire tuer si je vous montre aussi les caricatures ?» les enfants auraient répondu « Oui, mais pas par nous », aurait-il précisé, « car nous on t'aime bien ». Ces propos ont été interprétés par le gouvernement du point de vue de la lutte contre le terrorisme comme, je cite, « des signaux faibles de radicalisation ». Alors certes, ça c'est l'interprétation du point de vue de la lutte contre le terrorisme. Mais comment interpréter ces propos du point de vue de l'enfance ? En tant que psychologue, imaginer de tels propos dans la bouche d'enfants de 10 ans, cela m'évoque immédiatement le manque de discernement, de proportionnalité dont les enfants de cet âge-là peuvent faire preuve en situation d'information incomplète, c'est-à-dire quand ils n'ont pas accès à tous les éléments d'analyse d'une situation, soit parce qu'on ne leur donne pas accès, ou alors parce que leur capacité, due à leur âge, ne leur en donne pas accès. Il faut en effet admettre que des notions abstraites et hautement symboliques comme la liberté d'expression, la laïcité, le blasphème, ne sont généralement pas encore suffisamment maîtrisées à cet âge-là. Quand ils s'expriment sur des notions comme celle-là, les enfants de primaire n'en mesurent pas la portée et font parfois des raccourcis. Raccourcis qui d'ailleurs, dans un grand nombre de cas, peuvent s'avérer très drôles et amusants. Mais parfois, comme celui-ci, beaucoup moins. Quand des adultes donnent la parole à des enfants sur des sujets aussi sensibles, ils doivent s'attendre à les entendre dire des bêtises. Des bêtises qui sont, en quelque sorte, des points de départ à partir desquels la guidance de la pensée aboutie de l'adulte est censée amener l'enfant vers un point de vue plus large, plus nourri, donc plus nuancé. Mais il n'est pas non plus impossible que ces propos aient été également enclins à une certaine provocation, à une volonté de s'opposer à quelque chose d'établi, ce qui ne serait pas étonnant tant c'est également un comportement propre à cette période de l'enfance. Ces attitudes d'opposition au discours référence d'autorité sont, pour faire très vite, des manières pour l'enfant, souvent maladroites, d'affirmer son identité, sa singularité, en se décalant, en se différenciant du discours établi. Et en parlant d'identité, je pense qu'il ne faut pas exclure non plus une hypothèse liée à la thématique spécifique de cet hommage à Samuel Paty. Cette hypothèse, c'est que ces enfants se soient retrouvés en situation de conflit de loyauté. Le conflit de loyauté, c'est une problématique à laquelle sont soumis nombre d'enfants durant leur processus de construction identitaire. Ce conflit de loyauté, c'est quand un enfant se retrouve coincé entre deux discours d'autorité qu'il perçoit comme incohérents l'un avec l'autre, voire contradictoires. Le cas le plus fréquent est celui des enfants de parents séparés ou divorcés. Souvent, on voit apparaître des comportements turbulents à l'encontre de l'un, de l'autre, parfois en alternance, comme si l'enfant voulait rétablir ce qu'il s'imagine être la justice dans le conflit conjugal. Alors, dans ce cas précis, on pourrait alors imaginer que ces enfants aient été coincés lors de cet hommage entre les injonctions républicaines de tolérance à l'égard des caricatures de Mahomet et le ressentiment de leur famille par rapport à ces mêmes caricatures. Car rappelons-le, on peut légitimement, en tant que musulman, et sans être en aucune façon ni radicalisé ni sympathisant au terrorisme, heurté par ces caricatures, par le fait qu'elles soient diffusées. Il suffirait alors que ces enfants aient perçu une certaine blessure du côté de leur famille respective liée aux caricatures, pour se sentir le devoir d'exprimer une opinion à contre-courant, comme pour défendre ce qu'ils ressentent comme leur culture malmenée. Et ceci, bien sûr, en affirmant, avec la plus grande maladresse de leur âge, l'interdit de blasphème, propre à leurs valeurs familiales, qui leur sont transmises sur le mode classique et qui n'est d'ailleurs pas étranger à la religion catholique, « si tu blasphèmes, Dieu te punira, tu iras en enfer, etc. etc. » On voit bien ici la transposition maladroite et disproportionnée, encore une fois propre à leur âge, qui a donné lieu à leurs propos sur ce qui est arrivé à Samuel Paty ou ce qui arriverait à leur enseignant s'ils faisaient la même chose. Voici typiquement le genre de bêtises que peuvent dire des enfants de 10 ans quand ils sont en confiance et qu'on les invite à parler sur des sujets aussi compliqués. Il revient alors aux adultes de les aider à nuancer leurs représentations, à prendre la mesure de leurs paroles et en l'occurrence d'opérer une différenciation nette entre le folklore de la punition divine et la réalité d'un meurtre d'un homme par un autre. Ce sont ces bêtises qui ont été interprétées par des services sans doute plus formés à la traque des terroristes qu'aux problématiques de l'enfance, comme, je le cite à nouveau, des signaux faibles de radicalisation. On pourra regretter que des services de protection et de sauvegarde de l'enfance, qui ont incontestablement les compétences nécessaires pour appréhender ce genre de discours infantile, n'aient pas pu être consultés pour au moins atténuer les certitudes ayant amené aux interventions policières musclées dirigées vers ces enfants. Je le répète, ces quatre enfants de 10 ans ont été extraits de bon matin de leur domicile respectif par des policiers lourdement armés et équipés, car intervenant potentiellement au domicile de dangereux islamistes radicalisés. Voilà qui nous mène tout droit vers le deuxième point que je me dois d'évoquer concernant cette histoire. Quelles peuvent être les conséquences psychologiques pour ces enfants d'une telle intervention ? Et je ne vais surprendre personne en affirmant que les effets psychologiques chez des enfants de 10 ans à qui on fait vivre de telles choses peuvent être très négatifs. Si on en croit les mêmes sources qui ont rapporté les propos des enfants, plusieurs de ces enfants ont développé des angoisses massives de type phobie scolaire et refusent de ce fait de se rendre à l'école depuis cet événement. Au moins un autre de ces enfants souffre depuis d'énurésie nocturne, c'est-à-dire qu'il s'est remis à faire pipi au lit. Le retour d'énurésie chez l'enfant peut, dans l'immense majorité des cas, être classé dans la catégorie des troubles anxieux de l'enfant. Cette régression peut être interprétée comme une volonté de l'enfant de se réfugier dans une période antérieure de son développement, caractérisée par une certaine insouciance quand son environnement actuel lui procure trop d'insécurité. Ce type de symptômes régressifs ne se manifeste pas pour un oui ou pour un non, mais souvent à la suite d'un traumatisme sévère, remettant en cause l'équilibre psycho-affectif tout entier de l'enfant, l'ensemble de sa construction, de son évolution vers l'avant, et donc, comme un réflexe de survie psychique, l'enfant va se réfugier dans le passé, dans des souvenirs de sécurité, faute d'en trouver autour de lui. Les phobies scolaires des autres enfants ne sont pas moins inquiétantes. En effet, en essuyant de telles répercussions suite à l'expression de leur point de vue à l'école, on peut craindre qu'un lien de confiance indispensable soit rompu du côté des enfants et qu'ils mettent du temps à se retisser s'ils se retissent. D'autant plus que on peut s'imaginer que le ressentiment des familles, compte tenu de ce qu'elles ont pu ressentir, ne sera probablement en rien favorisant. Et on sait bien que pour qu'un enfant soit bien à l'école, il faut qu'il y ait une adhésion entre l'école et les parents. D'autre part, le fait qu'ils aient ainsi été sanctionnés d'avoir exprimé leur point de vue peut les insécuriser sur le long terme quant à d'éventuelles prises de parole ou autres interactions les engageant dans un groupe. Il est d'ailleurs tristement ironique, quand on y pense, que ce délit de parole ait eu pour scène un atelier scolaire sur la liberté d'expression en école primaire et que le résultat puisse être une inhibition pathologique chez un individu en devenir. Bien entendu, il ne s'agit ici que de la présentation des faits possibles de tels événements chez les enfants si jeunes. Ça n'a pas valeur de pronostic établi. Et je souhaite de tout cœur que ces enfants s'en sortent avec le moins de problèmes possibles. Ceci étant dit, cela nous permet tout de même de prendre la mesure de la gravité potentielle de ce genre d'intervention quand ils impliquent des enfants. Alors forcément, en tant que psychologue, je suis particulièrement sensibilisé à la souffrance psychique des protagonistes de cette histoire. Et j'en parle avec d'autant plus de facilité que je les sais laver de tout soupçon quant à une intention terroriste. Je ne me permettrai pas de juger ou de me prononcer sur la pertinence d'intervention et de vérification de ces foyers d'un point de vue de sécurité nationale, car ce n'est pas mon métier. Pour autant, il me semble légitime de nous interroger sur un certain nombre de dysfonctionnements des instances garantes de l'intérêt supérieur des enfants. Et si cette intervention avait pour but d'extraire ces enfants, le temps d'une enquête, d'un environnement potentiellement dangereux pour leur intégrité psychique, ce qui serait l'hypothèse la plus bienveillante à leur égard. Eh bien, si c'était ça, on peut s'interroger quand même sur la pertinence d'aller chercher 4 enfants de 10 ans, de les arracher de leur lit, alors qu'ils ne sont pas déscolarisés et que de ce fait, il était chose tout à fait aisée de les isoler sans heurts ni fracas, le temps que soient effectuées les vérifications nécessaires à leur domicile. Les isoler en les maintenant à l'école, tout simplement, comme c'est de pratique classique dans ce genre de situation, quand il est question de protéger l'enfant d'un environnement familial problématique. Le fait que ce ne se soit pas passé comme ça constitue tout de même une question pour moi qui reste encore sans réponse. Voilà pour ce prêt-à-penser. Si comme Frédéric, vous souhaitez me suggérer un sujet à traiter, vous pouvez le faire en passant par la boîte mail de Radio G ou par Facebook via la page de Radio G ou comme Frédéric, via ma page personnelle Nicolas Andrades, psychologue, sur Facebook. Passez une bonne quinzaine, prenez soin de vous. Et à dans 15 jours pour un nouveau prêt-à-penser dans l'oreille curieuse.
Ça va mieux ?
Eh, beaucoup mieux.
Super.